En séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Quelles sont les perspectives démographiques de notre planète ? Henri Léridon, démographe et correspondant de l'Académie des sciences, directeur de recherche à l'INED, Institut national des études démographiques, a traité ce sujet dans la communication qu'il a donnée devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques réunis en séance le lundi 9 janvier 2012. Précisons que la présidente pour l'année 2012, Marianne Bastide-Bruguière, a choisi comme programme d'année de proposer aux différents orateurs qu'elle invite de s'exprimer sur le changement dans le monde et la configuration des forces qui existent. Elle a donné pour titre à ce cycle de communication « Asymétrie et forces neuves du monde actuel ». C'est dans ce cadre qu'elle a invité Henri Léridon. Il a titré sa communication « Perspective de la population mondiale », entrée grâce à Canal Academy dans la salle des séances.
La demande donc portait sur l'évolution des perspectives de population mondiale et je vous présenterai donc les données les plus récentes. Auparavant, je ferai un petit détour sur la méthodologie. Ce n'est pas par souci ou scrupule scientifique excessif, mais parce que, après tout, on a bien le droit de se poser des questions sur la validité des projections qui sont faites. Elles servent d'entrée dans beaucoup d'utilisations, que ce soit pour les prévisions de l'alimentation mondiale, du climat, etc. Et donc, on a tout à fait le droit de se poser des questions sur leur réalisme. Et certains considèrent que la perspective des 9 milliards d'habitants en 2050, qui est souvent rappelée, n'est pas réaliste du tout et ne pourra jamais être atteinte. Donc, je pense que de ce point de vue, il est utile d'expliquer un petit peu pourquoi les démographes se sentent quand même relativement assurés sur ce chiffre. Je me centrerai sur les projections des Nations Unies qui font autorité aujourd'hui en la matière, mais j'insisterai sur une nouveauté particulière, malgré tout, qui est caractéristique de ces nouvelles projections, les plus récentes, donc qui datent de fin 2010. Alors, voilà, donc quelques aspects méthodologiques, les projections actuelles sur la population globale, ensuite des données sur l'hétérogénéité, puisque bien entendu, tout ne se fait pas de façon proportionnelle, et je discuterai de quelques impacts possibles, notamment en relation avec le rapport qui vous a été cité. Alors, quelques aspects méthodologiques tout d'abord. Je voudrais rappeler quelque chose, parce que finalement, je crois que ce n'est pas toujours bien présent à l'esprit. La situation que nous avons vécue au XXe siècle a été vraiment exceptionnelle. Alors certes, le débat sur la croissance démographique, tel qu'on pouvait l'évaluer dans le passé ou tel qu'on peut essayer de la projeter, est très ancien et les polémiques ont été très anciennes. Surtout à l'époque, on ne disposait en réalité d'aucun chiffre. Donc du coup, le débat était tout à fait libre. Aujourd'hui, nous avons des données historiques et contemporaines. Et on peut dire avec certitude que le XXe siècle aura été, du point de vue démographique, un énorme accident de l'histoire. Sur le graphique que vous pouvez essayer d'entrevoir ici, vous avez le temps qui passe depuis l'an 0 jusqu'en l'an 2000, en abscisse, et sur une échelle logarithmique, la population mondiale, telle qu'on a pu la reconstituer jusqu'à maintenant. Bien entendu, les données du passé ne sont pas parfaites. J'ai mis trois courbes pour vous montrer qu'il y a des hypothèses et des propositions différentes. Certainement que la réalité peut encore s'écarter de ces trois propositions. L'important, c'est de voir que le profil général depuis l'an 1000, pratiquement, c'est une exponentielle. Or, nous sommes en graphique logarithmique. Donc, le chiffre réel évolue de façon exponentielle d'exponentielle. Il y avait là matière, effectivement, à inquiétude quand on a réalisé cette situation, c'est-à-dire pratiquement seulement au milieu du XXe siècle et surtout dans les années 1960-70. Et ça a alimenté un grand débat qui a culminé à peu près dans les années 60-70. Or, à ce moment-là, précisément, le taux d'accroissement culminait. Puisque la population, je vous l'ai dit, était en croissance d'exponentielle exponentielle, ça veut dire que son taux d'accroissement était lui-même croissant. Sur ce graphique, on part seulement de 1900 et on a extrapolé en rouge la partie future de l'histoire du taux d'accroissement naturel. En gros, vous voyez que nous étions au début du XXe siècle à peu près à 1,5% et qu'avec des fluctuations, on est monté à 2%. 2%, ça peut sembler pas beaucoup. Quand on touche ça à la caisse d'épargne, on trouve que ce n'est pas beaucoup. Comme taux d'inflation, on s'en contente. Mais en réalité, ça fait quand même un doublement tous les 70 ans. Et donc, ça fait une vitesse d'accroissement de la population qui est quand même extrêmement rapide. Donc, il s'est produit une phase de croissance globale démographique exceptionnelle au cours des 19e et 20e siècles qui va se terminer grâce au retournement du taux d'accroissement qui s'est produit à peu près donc, vers 1960. Depuis, nous sommes revenus un peu au-dessus de 1%, et on va voir que les projections laissent envisager d'arriver pas très loin de zéro dans une cinquantaine d'années. On peut considérer que, avec les données que nous avons du point de vue historique sur la mortalité et la fécondité dans le passé, qu'on n'a jamais connu une période de croissance à ce taux-là durablement dans le passé. Et en tout cas, si elle a existé, elle a porté sur des chiffres absolus, beaucoup plus faibles, alors que là, nous parlons rapidement de milliards. Alors, les projections dont nous parlons le plus souvent sont réalisées par la division de la population des Nations Unies. Elles ont commencé dans les années 50. Il y avait eu quelques essais préalables, notamment par l'Office of Population Research à Princeton, pour la Société des Nations, dans les années 30 et 40. Ce n'était que partiel parce que, de toute façon, on n'avait pas des données sur tous les pays du monde. Dans les premières projections des Nations Unies, il en est de même, c'est-à-dire que ça portait sur les pays pour lesquels on avait quelques informations, et c'était fait de façon assez globale. À partir de 1957, on a appliqué la méthode que je présenterai des composantes, et on a pris comme horizon à peu près 2000, parce que c'était un chiffre rond, et puis pour d'autres raisons que j'exposerai aussi. Depuis 1994, bien entendu, on a repoussé l'horizon, maintenant il est plutôt à 2050, mais plusieurs exercices sur de plus long terme ont été proposés jusqu'à 2100, voire 2150, 2200 et même 2300, ce qui, je crois, est totalement inutile. Il n'y a aucun moyen de faire des perspectives qui ont un sens quelconque au-delà de 100-150 ans. Un point important, c'est que la projection est faite pays par pays. Il y en a actuellement 230 aux Nations Unies, des pays ou des territoires, statut variable. Et donc, c'est chaque pays qui donne lieu à une projection et après seulement, on agrège. Un point important aussi, c'est que ces projections sont faites de façon autonome. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction explicite avec d'autres facteurs, croissance économique, éducation, etc., sauf indirectement dans le fait que quand on cherche à voir comment la fécondité, par exemple, pourrait évoluer, ou la mortalité, on prend en compte ces données-là pour modéliser les perspectives futures de fécondité ou de mortalité. On sait que l'éducation, par exemple, joue un rôle majeur, donc on tient compte de l'évolution de cette variable-là. Mais c'est seulement indirectement, dans les projections elles-mêmes qui sont faites, il n'y a pas de différentiel par fécondité ou autre variable, par éducation ou autre variable. Alors, je vous le disais, la variable démographique est elle-même une donnée externe dans un grand nombre de modèles, économiques, alimentaires, etc. Mais il y a peu de modèles qui traitent la variable démographique en interaction avec d'autres. Ça existe, notamment dans le domaine économique, et généralement, c'est simplement deux à deux, les interactions. Il y a eu un exemple historique de modèle global, dont vous vous souvenez peut-être, l'essai du MIT et du Club de Rome en 1973. Ce modèle, construit par Meadows et Forrester au MIT, prenait en compte simultanément l'évolution des ressources naturelles disponibles en termes d'énergie, de minerais, de la production industrielle, des disponibilités alimentaires, de la pollution et de ses effets sur l'environnement, donc c'est un modèle très moderne, si on peut dire, et de la population mondiale. Donc il y a vraiment tous les ingrédients qu'on voudrait mettre aujourd'hui dans un modèle si on le refaisait. Au total, environ 80 variables étaient en interaction et tout le problème était là. Il s'agissait de savoir est-ce qu'on était capable de mesurer et de modéliser les interactions de toutes ces variables entre elles. La réponse est largement, malheureusement, non. Et donc de ce point de vue, le modèle a été très fortement critiqué et à juste titre, bien qu'il ait été, à mon avis, une tentative intéressante quand même de globalisation des choses. Alors, comme dans tout modèle, il y avait divers scénarios. Je ne vais pas entrer dans le détail. Je voudrais simplement vous dire que, puisque le temps est passé, on peut commencer à confronter les projections de ce Club de Rome avec l'évolution réelle. Sur ce graphique, la projection standard du Club de Rome, c'était un peu si on ne fait rien, si les choses continuent comme elles sont. Voilà ce qui pourrait se passer. C'est la courbe en vert sur ce graphique. Tandis que vous avez en rouge ou en bleu les projections démographiques des Nations Unies à deux dates différentes. Elles sont peu différentes entre elles. Alors, nous sommes ici, en 2010, et vous voyez qu'évidemment, jusqu'ici, les choses sont assez proches les unes des autres, c'est-à-dire que la projection du MIT était correcte jusqu'en 2010. Au-delà, à partir de maintenant, la divergence devrait se faire, c'est-à-dire que la croissance démographique devrait être beaucoup plus rapide que ce que les Nations Unies nous promettent, comme on va le voir, et on prévoyait dans ce scénario un maximum à 12 milliards d'habitants, atteint vers 2050, on verra que nous parlons plutôt de 9,5, mais surtout suivi d'un effondrement. Immédiatement après, la population se mettait à décroître et revenait à 6 milliards avant la fin du siècle. Donc ce scénario était très pessimiste à cause de ce renversement de tendance de la démographie. Et à dire vrai, tous les scénarios, pratiquement, passés par cet effondrement, provoqués par un manque de disponibilité alimentaire ou de ressources naturelles, parce que pour ces ressources-là, leur croissance était strictement bornée. On admettait qu'elles pourraient être multipliées par 2, par 3, par 4, mais en absolu. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de possibilité, après un certain moment, d'augmentation. Et évidemment, dans ce cas-là, on était dans un schéma typiquement malthusien, dans lequel on laissait la population croître spontanément, beaucoup plus vite que les ressources, et le drame était évidemment inévitable. Voilà, alors cet épisode a été un peu oublié, parce qu'il a semblé impossible de construire des scénarios de cette nature-là, faute, encore une fois, d'informations sur les relations entre les variables. Pour revenir aux projections strictement démographiques, on procède donc aujourd'hui par ce qu'on appelle la méthode des composantes, qui n'est pas très compliquée. Simplement, ça suppose de disposer des effectifs par sexe et âge pour chaque population et de taux de mortalité et de fécondité également par sexe et âge pour chaque population. On le fait sur 230 pays et on agrège ensuite les résultats, comme je l'ai dit. Ce petit schéma est destiné à vous essayer d'illustrer le principe d'incertitude croissante, si on peut dire. C'est ce qu'on appelle un schéma de Lexis. Vous avez là aussi en abscisse le temps qui passe, les années, de 0 à 100 ici, et verticalement les âges, de 0 à 100. On pourrait imaginer qu'on décrit une population à un moment donné, à l'instant 0, sur cet axe de 0 à 100, en marquant les effectifs des gens de 0 à 5 ans, de 5 à 10 ans, de 15 à 20 ans, etc. Si on veut suivre un individu ou une génération donnée, eh bien on est sur une diagonale, en vertu du principe démographique de base, que chaque année, nous vieillissons d'un an. Ça, c'est une loi simple. Toute la partie en jaune indique la part de la population qui, au fil des années qui vont venir, n'est pas encore connue, n'existait pas au départ. En effet, les gens qui ont aujourd'hui 15 ans, eh bien, on peut les faire vieillir, et bien entendu, on va leur appliquer des taux de mortalité, puisqu'ils ne seront pas éternels, jusqu'à arriver à 100 ans. Pour ceux qui viennent de naître, de même, on connaît leur effectif et on peut appliquer des taux de mortalité. Par contre, pour les générations qui vont suivre, il nous faut alimenter la pyramide des âges avec les naissances. Donc, il faut faire des hypothèses sur la fécondité des diverses générations l'année prochaine, dans 5 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, etc. Or, l'intervalle entre deux générations, c'est à peu près 30 ans. Donc, dans plus de 30 ans, nous aurons les enfants des enfants que nous projetons de faire naître. Et puis, dans 60 ans, nous aurons les enfants, les petits-enfants de ces enfants. Donc, on voit que les hypothèses de fécondité deviennent de plus en plus compliquées à faire. Comment savoir combien nos petits-enfants auront d'enfants? Alors, l'incertitude est relativement limitée pendant les premières décennies, puisqu'on a quand même une partie solide, relativement solide de la projection, constituée des personnes actuellement en vie, parce que les hypothèses sur la mortalité sont plus faciles à faire que sur la fécondité. Dans 50 ans, déjà, vous voyez que la moitié de la population sera constituée de personnes qui ne sont pas encore nées, et évidemment, dans 100 ans, la population aura été complètement renouvelée. C'est la raison pour laquelle, en général, on considère qu'il est assez solide de travailler à l'horizon de quelques décennies, ce qui est déjà pas mal. Pas beaucoup de projectionnistes qui se risquent à des décennies, voire 50 ans. Éventuellement 100 ans, je dirais un peu pour voir, mais qu'au-delà, l'exercice devient vraiment tout à fait irréaliste. Alors, pour pouvoir faire ça, encore faut-il disposer de données sur la population initiale, par sexe et par âge. C'est typiquement ce que donne un recensement dans un pays, mais tous les pays ne disposent pas de recensement fiable et régulier. Presque tous, mais pas tout à fait tous encore. Il faut aussi des hypothèses sur les niveaux initiaux et sur les évolutions possibles de la mortalité, de la fécondité et également des migrations. Là, c'est plus difficile. Tous les pays n'ont pas d'état civil, donc de données fiables sur la mortalité et la natalité. On procède par enquête dans ces cas-là. Pour la fécondité, ça marche assez bien. Pour la mortalité, beaucoup moins bien. Pour les migrations, on verra que c'est encore pire. Alors, on verra comment on procède quand même, et on utilise sinon des hypothèses reposant sur le schéma de la transition démographique dont je dirai un mot. Et puis dernier point, naturellement, il faut choisir un horizon raisonnable puisque ce n'est pas la peine, encore une fois, d'aller trop loin. On peut aussi construire des variantes, bien entendu. On publie en général un scénario central et entouré de 2 ou 4 scénarios plus hauts ou plus bas. Le scénario central, qu'on le dise ou pas, est quand même supposé être le plus probable. Et les autres, eh bien, qu'on le dise ou pas, sont là pour cerner un peu les écarts possibles, constituer un peu des minima ou des maxima. Alors, comment choisit-on les hypothèses? Eh bien, généralement, par ce qu'on peut appeler discussion d'experts, c'est-à-dire discussion entre spécialistes des divers pays pour savoir comment peut évoluer la fécondité chinoise, comment peut évoluer la mortalité en Afrique. Et ensuite, on transfère ça en hypothèses de fécondité et de mortalité. On peut aussi essayer de construire des intervalles de confiance, c'est-à-dire procéder de façon plus scientifique, si l'on veut, en appliquant une démarche probabiliste. Les premiers à l'avoir fait sont les spécialistes de l'IASA en 1976, et les dernières projections des Nations Unies, publiées à la fin de l'année dernière, utilisent aussi en partie cette démarche. On verra si elle apporte vraiment quelque chose ou pas. Un mot en passant sur la transition démographique. La plupart des pays sont passés, ou passent actuellement, par une phase de forte croissance qui a résulté d'un décalage entre la baisse de la mortalité et celle de la natalité. Si la natalité tarde alors que la mortalité commence à baisser, bien évidemment l'accroissement naturel, qui est la différence entre les deux, augmente, comme on l'a vu, à l'échelle de beaucoup de pays et à l'échelle mondiale, jusqu'à 2%, donc dans les années 60-70. La baisse de la mortalité se fait beaucoup d'abord par la baisse de la mortalité infantile. Il est évident qu'un enfant qui décède, ça prive la population du potentiel et d'une personne capable de vivre longtemps, alors que quand c'est un adulte qui décède, la brèche est plus faible sur la pyramide. Donc il est important de suivre la mortalité infantile, et quand il y a une plus grande proportion d'enfants qui survivent, évidemment, un plus petit nombre de naissances suffit à assurer le remplacement des générations, c'est-à-dire le fait qu'il y aura, d'une génération à l'autre, à peu près le même effectif. Et compte tenu des niveaux de mortalité actuels jusqu'à l'âge adulte, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de reproduction, il suffit de 2,1 à 2,3 enfants pour remplacer la génération précédente. Or, la mortalité a commencé à baisser pratiquement partout, alors que ça n'a pas été le cas de la fécondité. Et quand ça a été le cas pour la fécondité, le rythme a pu être variable. Il a été plutôt lent dans les vieux États européens, comme la France, alors qu'il est parfois beaucoup plus rapide, heureusement, dans les pays en développement. On est par exemple passé de 6 enfants par femme à 3 en 10 ans seulement en Chine, en 15 ans en Iran, en 20 ans en Tunisie ou au Maroc, alors qu'il avait fallu plus d'un siècle à la plupart des pays européens. Donc, autant la croissance a pu être particulièrement explosive dans ces pays, du fait du décalage entre les baisses de fécondité, de mortalité et de fécondité, autant la baisse de fécondité aura quand même été parfois très rapide pour arrêter le processus beaucoup plus vite que ça n'avait été le cas dans les pays actuellement développés. Y a-t-il une fin à ce processus ? C'est-à-dire, est-ce que la théorie de la transition démographique nous garantit qu'à la fin, nous atteindrons un équilibre parfait entre les niveaux de mortalité et de fécondité ? Et malheureusement, la réponse est non. Adolphe Landry, qui a été l'inventeur non pas de la notion de transition démographique, mais il l'appelait la révolution démographique dans son ouvrage publié en 1934, disait « Ce qui n'est aucunement inconcevable, c'est que la reproduction d'un pays tout entier descende un jour, du fait de la baisse de la fécondité, au niveau où est parvenue celle d'une grande ville comme Berlin, on aurait ainsi une reproduction nette de 0,4. » Alors la reproduction nette de 0,4, ça veut dire un indice de fécondité de l'ordre de 0,8, 0,9, c'est-à-dire un peu moins de la moitié de ce qui assure le remplacement des générations. Alors est-ce possible ? Ben, effectivement, la fécondité est descendue à des niveaux très bas, pas aussi bas que ça, mais quand même très bas, dans plusieurs pays européens, bien au-dessous des 2,1 enfants. Alors, j'en viens aux projections actuelles des Nations Unies. La nouveauté, je vous l'ai dit, je vais la présenter vraiment très très brièvement parce que ça serait un peu compliqué sinon, c'est d'avoir introduit une projection probabiliste, au moins pour la fécondité et au moins pour une partie des données. Je vais vous présenter peut-être le petit schéma que voici, ce sera plus simple à comprendre. Nous avons un pays donné qui a actuellement à une certaine valeur de la fécondité, mettons ici dans ce graphique, 3 enfants. On connaît son évolution passée. La question est de savoir qu'est-ce qui peut se passer dans les 5 années à venir. Les projections sont faites généralement de 5 en 5 ans. On dispose pour ça, bien entendu, de la tendance passée pour ce pays. On peut essayer de l'extrapoler. Mais on dispose aussi de l'histoire vécue par ceux qui sont plus en avance que lui et qui ont atteint ce niveau-là plus tôt. J'ai pris 2 exemples ici, imaginaires. Donc un pays qui a atteint à la date T1 ce niveau de 3 enfants, on connaît son évolution ultérieure, un autre qui l'a atteint plus tard et dont on connaît aussi l'évolution ultérieure. Et l'idée, c'est de tirer profit de toutes ces évolutions-là, connues pour les pays déjà qui ont déjà expérimenté ce niveau de fécondité, pour construire une loi de probabilité représentant l'évolution possible de la fécondité entre T et T plus 5 si on part d'un niveau, ici 3 enfants, à la date T. On modélise cette distribution empirique en loi de probabilité, et à partir de ça, on peut donc générer un nombre quelconque de projections futures en tirant au sort dans cette loi de probabilité et chercher quelle sera l'hypothèse centrale, disons l'hypothèse médiane, qu'on pourra retenir et calculer des intervalles de confiance à 80%, 90%. C'est ce que la loi de probabilité vous permettra d'obtenir. Alors, en réalité, ce travail est fait pour la période de baisse de fécondité jusqu'au seuil de 2,1 enfants. Pourquoi ? Bien parce qu'en dessous, on ne sait plus très bien ce qui peut se passer. L'expérience que nous avons pour le moment semble montrer qu'on peut descendre jusqu'à 1,4, 1,5 et peut-être après commencer à remonter. Alors vers quoi ? Là, il y a une hypothèse qui n'est guère justifiée dans les projections des Nations Unies et qui consiste à dire on remontera vers 2,1. C'est commode, c'est le seuil de remplacement des générations. Mais à dire vrai, il n'y a pas de raison très particulière d'imaginer que ce soit 2,1. La preuve en est, c'est que jusqu'aux projections de 2008, les Nations Unies imaginaient que ça irait vers 1,85 plutôt que 2,1. Je ne sais pas pourquoi ils ont révisé à la hausse cet objectif. Deuxième curiosité, c'est que au lieu d'utiliser les intervalles obtenus pour la fécondité et les transformer ensuite en intervalles de confiance pour l'évolution de la population, les experts des Nations Unies ont continué la méthode antérieure consistant à dire autour de l'évolution centrale définie pour un pays donné au fil du temps, on imagine que l'évolution se ferait avec 0,5 enfants en plus ou 0,5 enfants en moins pour définir des hypothèses hautes ou basses dans les évolutions futures. Donc, ils ont reconduit cette méthode-là. Pour la mortalité, là, il n'y a pas de projection aléatoire. On l'utilise à des marches classiques consistant à extrapoler l'espérance de vie. Quand on a une espérance de vie, on obtient tous les taux de mortalité par âge en utilisant ce qu'on appelle des tables types qui donnent donc ces taux de mortalité par âge correspondant à une espérance de vie donnée, ce qui est un peu approximatif, mais qui marche quand même assez bien. La nouveauté, c'est que, compte tenu de l'allongement de la durée de vie, il faut maintenant aller jusqu'à 100 ans, aussi bien dans les tables individuelles que pour donc, les projections d'espérance de vie. Donc là, ben, il faut imaginer ce que peut être l'avenir, puisqu'on n'a pas encore d'expérience, d'espérance de vie atteignant 100 ans, mais en projection, on peut imaginer qu'on y arrive. Il y a également une caractéristique particulière dans le cadre des projections de mortalité, c'est qu'on traite séparément la question du sida, parce que l'impact sur certaines populations, notamment en Afrique, a été considérable et que ça n'aurait pas eu grand sens de projeter l'évolution démographique de ces pays sans prendre en compte une baisse, par exemple, de l'espérance de vie qui a pu atteindre 20 ans dans certains pays à cause du sida. L'impact mondial est faible, mais au niveau de certains pays, par contre, il pouvait être considérable. Voilà, alors avec les hypothèses qui ont été faites, on passerait d'une espérance de vie moyenne mondiale de 66 ans à peu près en 2000 à 76 ans en 2050, 10 ans de plus, et peut-être 81 ans en 2100, avec évidemment des variations régionales importantes, comme on va le voir. Ce graphique, c'est un récapitulatif de l'évolution de la fécondité telle qu'elle existe jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est là à peu près, en 2010, dans les grandes régions du monde, et telle qu'on l'extrapole, donc convergent, comme je l'ai dit, vers un peu plus de 2. Donc on a ici, le plus en avance sont les pays d'Amérique du Nord et d'Europe, les courbes du bas, qui sont passées en dessous donc, de 2 enfants par femme, mais qu'on suppose revoir remonter vers un peu plus de 2. Ici, on a l'Asie, qui était encore à 5 enfants dans les années 50, l'Amérique latine, qui était à 6, et l'Afrique, qui était à presque 7 dans les années 50. Donc vous voyez qu'en 2010, on a fait la plus grande partie du chemin pour presque toutes les régions du monde, c'est-à-dire que la fécondité a déjà énormément baissé, elle est à moins de 2,5, 2,6 dans la plupart des grandes régions du monde, sauf en Afrique, où elle est encore à 4, 4 à 5. Et là, donc, on espère que l'évolution future sera celle-ci, mais évidemment, il y a quand même un pari, il n'est pas négligeable, on extrapole comme ça, on pourrait extrapoler comme ça, et ça changerait un petit peu l'avenir démographique de la planète. Pour l'espérance de vie, ce qu'on constate sur ce graphique qui va aussi de 1950 à 2100, avec donc 2010 par là, on constate qu'il y a une certaine convergence, mais enfin quand même assez lente. Il y a surtout un retard de l'Afrique qui est partiellement compensé, sinon les écarts restent quand même assez marqués entre les grandes régions du monde. Alors, le résultat global sur ce tableau du haut montre qu'on était 1,6 milliard en 1900, on était 6,1 en 2000, et selon l'hypothèse médiane, on serait 9,3 milliards en 2050. C'est un petit peu plus que ce qu'avaient donné dans les projections précédentes les Nations Unies. 9,3 milliards, avec une hypothèse basse à 8,1, une hypothèse haute à 10,6. Je n'ai pas encore précisé que, quand on regarde rétrospectivement, puisque ça fait presque 50 ans que les Nations Unies font des projections, au moins jusqu'à l'an 2000 ou 2010, l'écart entre la réalité et la projection, on s'aperçoit que dans l'ensemble, on a presque toujours été très près de l'hypothèse médiane des Nations Unies. Donc, même en partant dans les années 60, 70, où à l'époque on n'avait pas des informations quand même extrêmement précises sur toutes les données démographiques utiles, Malgré tout, les projections pour l'an 2000 étaient assez bonnes. Et en tout cas, on était très loin de l'hypothèse basse ou de l'hypothèse haute qui encadrait les projections. Donc on peut avoir une confiance assez raisonnable et penser que les 9,3 milliards seront probablement atteints. Si ça n'est pas le cas, on serait peut-être un peu en dessous si jamais la baisse de la fécondité allait plus vite que prévu, ou un peu au-dessus si elle était plus lente. Donc voilà, mais vraisemblablement quand même nettement au-dessus de 8 milliards et nettement en dessous de 10,6 milliards. Alors, le point important aussi à signaler, c'est que 2050 marquerait peut-être pas la fin de l'histoire démographique, mais en tout cas, un moment de stabilisation probable. Les 50 années suivantes, la population ne croîtrait plus que de 700 millions à peu près. Donc, on dépasserait un petit peu les 10 milliards, mais guère plus. Et si on projette encore plus loin, on verrait plutôt la population diminuer. L'hypothèse basse, du coup, serait encore plus faible. Elle tomberait à 6 milliards, alors que l'hypothèse haute monterait à 16. Donc, l'idée générale, c'est que 2050 devrait marquer à peu près une stabilisation de la population. À partir de là, est-ce qu'elle commencera à diminuer? Est-ce qu'elle restera à ce niveau? Est-ce qu'elle continuera à augmenter un peu? Là, c'est très difficile de le dire aujourd'hui. Mais on ne sera plus du tout dans les rythmes de croissance qu'on a connus jusqu'ici et qu'on connaît encore aujourd'hui. Quelques données maintenant plus précises, au-delà de l'évolution globale, sur les variations des évolutions. Entre 2000 donc, et 2050, la population aura augmenté de 3,2 milliards. Donc on était à 6, et on passera à 9,3. On aura augmenté de 3 milliards, de 50%. 1,4 milliard d'augmentation se fera en Asie et autant en Afrique. Donc 2,8, ça vous fait la presque totalité de l'accroissement global. Alors pourquoi ces chiffres élevés en Afrique et en Asie? Pour l'Asie, c'est pas parce que le taux de croissance sera très élevé, mais parce que la fécondité sera encore très élevée, mais parce que la population est importante, déjà, aujourd'hui, et qu'elle a encore une inertie assez forte. Donc, le taux d'accroissement ne portera pas sur une population, ne sera pas très élevé, mais il portera sur une population importante. Pour l'Afrique, au contraire, c'est parce que, vraiment, le taux de croissance va être encore très élevé, et la population de l'Afrique, comme on va le voir, va augmenter considérablement en proportion dans les 50 années à venir. Deuxième élément qu'on regardera, la croissance sera en grande majorité urbaine, puisque au total, l'accroissement des villes, la population des villes sera supérieure à l'accroissement de la population totale, même d'ici 2050. Il y a aujourd'hui une moitié d'urbains, il y en aura les deux tiers à peu près en 2050. Et puis, on parlera un petit peu des questions des mouvements migratoires, qui seront sans doute en hausse, mais qui ne devraient pas être extrêmement importants. Alors voilà l'évolution des populations par grandes régions du monde. Ce graphique est toujours sur le même principe, c'est-à-dire que ça démarre en 1950. Donc la première moitié vous dit l'évolution passée, la seconde moitié vous dit l'évolution à venir. Donc on voit que bien, c'est évidemment l'Asie qui est actuellement la plus importante, avec presque 4 milliards d'habitants. Elle va donc encore augmenter, mais de 4 à 5 et quelques. Donc en absolu, c'est encore un accroissement important, mais en relatif, c'est plus faible et on peut espérer que ce sera la fin de la croissance démographique à l'horizon 2050 pour l'Asie. Dans toutes les autres régions, l'Amérique latine va avoir un accroissement en valeur absolue pas très important, mais en valeur relative quand même pas négligeable, c'est la courbe en bleu ici. L'Europe devrait rester à peu près stationnaire, l'Amérique du Nord va continuer à croître légèrement, mais tout ceci ne représente pas donc des masses considérables. L'important, c'est l'Afrique. L'Afrique est aujourd'hui est autour de 1 milliard, et qui va dépasser les 2 milliards allègrement en 2050 et continuer à croître, quoi qu'il arrive, au-delà. Là, on peut extrapoler certainement la croissance de la population africaine. On aura un doublement, donc, certainement d'ici 2050 et probablement encore un doublement ensuite. Donc, la valeur absolue, c'est déjà la moitié presque de l'accroissement de la population mondiale, et en valeur relative, le bond sera également considérable pour l'Afrique. Là, ce sont les chiffres simplement illustrant le graphique précédent pour recaler les idées. Donc l'Afrique est actuellement, enfin l'an 2000 était à 800 millions, maintenant elle a pratiquement atteint 1 milliard. Donc elle passerait de 800 millions à 2 milliards 2 en 2050 et à 3 milliards 6 en 2100. Donc elle représenterait à ce moment-là un bon tiers de la population mondiale, un bon tiers. L'Asie, 3 milliards 7 aujourd'hui, passerait donc à 5,1 et pourrait ensuite diminuer en 2100, revenir à 4006. L'Europe, je l'ai dit, ne bougera pratiquement pas. L'Amérique latine augmentera de 500 millions à 750 millions, puis pourrait plafonner, voire rediminuer un peu ensuite. L'Amérique du Nord augmentera sensiblement. Il ne faut pas négliger l'accroissement des États-Unis et du Canada, surtout les États-Unis, qui va se poursuivre. Donc de 313 millions à 447, ce n'est pas négligeable, puis 526. Et l'Océanie, évidemment, ne compte pas beaucoup. Alors, si on descend encore d'un cran à l'échelle nationale, on aura, pour l'Asie, il dit que l'accroissement serait au total de 1,4 milliard. Il y en aura 638 millions en Inde, soit une augmentation pour l'Inde de 60% à peu près. Alors, l'Inde est actuellement à 2,7 enfants par femme, donc elle a déjà beaucoup diminué. Elle est quand même un peu au-dessus de la moyenne mondiale. Mais c'est avec une grande diversité entre notamment les États du Sud et ceux du Nord. Le minimum est de 1,8 au Kerala, donc 1,8 c'est une valeur européenne, c'est la moyenne européenne on pourrait dire, mais 4,3 au Bihar. Donc une grande variabilité encore. Ces écarts peuvent laisser penser que l'évolution vers une plus faible fécondité globale est possible, puisque la moitié des États de l'Inde sont déjà à des niveaux assez faibles, mais évidemment elle n'est pas encore certaine. Il est possible que certains États restent en retard pendant encore quelques décennies. Le Pakistan aura une évolution relative plus importante, elle va presque doubler sa population, avec plus de 130 millions. La Chine, au contraire, a déjà atteint ou va atteindre un niveau de stabilité, puisqu'on prévoit seulement une augmentation d'une trentaine de millions, ce qui n'est pas beaucoup, 2% seulement d'accroissement de sa population par rapport à la population actuelle, et ensuite un possible déclin. Alors le cas de la Chine est assez compliqué, les données ne sont pas parfaites, loin de là, et il y a des débats sur le niveau de la fécondité actuelle. Il y a une enquête toute récente qui a été publiée, plutôt des premiers résultats d'un recensement, qui donnerait un niveau de fécondité plutôt vers 1,5-1,6, alors qu'officiellement les autorités parlent de 1,8. Donc il y a une incertitude. On aurait tendance à penser que les chiffres de ce recensement sont probablement plus exacts, mais ça demandera confirmation. Si c'est vrai, alors le ralentissement de la croissance démographique en Chine devrait être encore plus rapide et le déclin donc intervenir éventuellement encore plus tôt. Ce qui préoccupe un peu d'ailleurs les autorités chinoises. En Afrique, on va avoir des taux de croissance, donc comme on l'a dit, considérables. Le Nigeria passerait de 124 à 390 millions, c'est-à-dire une multiplication par 3 de sa population en 50 ans. L'Égypte, qui a déjà bien amorcé sa transition, serait encore multipliée par presque 2. Le Congo, l'ex-Zaïre, la République démocratique du Congo, je crois l'appellation officielle, l'ancien Zaïre, sera multiplié par 3, atteindrait 150 millions aussi en 2050. Le cas extrême, à une échelle absolue beaucoup plus réduite, c'est celui du Niger, qui passerait de 11 à 55 millions, soit une multiplication par 5 en 50 ans. Il faut dire que la fécondité actuelle est de plus de 7 enfants, et c'est le record mondial, probablement. Bon, encore une fois, c'est pour dire que quand les taux commencent à atteindre des niveaux de l'ordre de 3% et plus, à ce moment-là, le rythme de doublement est extrêmement rapide. Et en 50 ans, on peut arriver à avoir donc des augmentations aussi phénoménales qu'une multiplication par 5 dans le cas du Niger. L'Europe, je l'ai dit, globalement, sera stable, mais certains pays vont déjà connaître un recul de leur population, notamment l'Ukraine, la Russie, mais aussi l'Allemagne et la Pologne, de l'ordre de 9-10%. Il s'agit de la population globale, migration incluse. La France a une dynamique encore assez forte et donc son accroissement devrait être de l'ordre de 23% sur les 50 années. Et les États-Unis, je l'ai dit, sont encore en croissance forte avec 43% d'augmentation probable sur les 50 prochaines années. Alors, un mot sur l'urbanisation. Je vous l'ai dit tout à l'heure en deux mots. Donc, la part de la population urbaine passera de à peu près 50% aujourd'hui, on a atteint les 50% tout récemment, à près de 70% en 2050. Bon, les projections de population urbaine ne sont pas toujours calées exactement sur les projections de population totale, donc les chiffres sont parfois un petit peu différents. Mais même dans les pays en développement, on aurait 67% de population urbaine. J'entre pas plus dans le détail. Les grandes villes, évidemment, vont connaître une augmentation forte et leur nombre des agglomérations urbaines dépassant 10 millions d'habitants, notamment, va considérablement augmenter. Rien que de voir la liste sur ce tableau en 2003 et en 2015, on voit que la liste augmente. Et surtout, elle a beaucoup augmenté dans les dernières décennies. Il est quand même important de savoir que l'accroissement se fera malgré tout plutôt dans les villes moyennes. Et je dirai un mot sur les problèmes que ça peut poser. L'émigration, pour terminer. Bien entendu, pour projeter les populations, il faut tenir compte des migrations. Les données là-dessus sont encore plus rares, car les mouvements d'entrée sont très mal enregistrés et les sorties sont généralement pas enregistrées du tout. Même en France, par exemple, on se dispute tous les ans sur les chiffres des migrations. Donc c'est pour vous dire que ça n'est pas simple. A fortiori quand on n'a pas des contrôles très stricts aux frontières. Alors on se contente en général de taux nets, c'est-à-dire qu'on dit en net, sur 10 ans par exemple, le nombre d'immigrants dépassera celui des émigrants de X%. Il faut travailler, bien entendu, il faut le faire à toutes les échelles possibles, donc commencer à l'échelle des pays, et ensuite le faire à des échelles plus grandes. Et plus on monte dans l'échelle, plus le taux de migration est faible. Quand on atteint la population mondiale, le taux de migration globale est zéro, bien entendu. Alors, entre grandes régions, les Nations Unies prévoient à peu près 100 millions de migrants nets, dans la définition que je viens de donner, c'est-à-dire le solde des entrées et des sorties, entre grandes régions du monde, donc entre 2000 et 2050, c'est-à-dire 2 millions par an. Alors, ce solde de 100 millions est certainement inférieur au nombre réel de migrants, de personnes qui vont physiquement se déplacer, puisque c'est la différence entre les entrées et les sorties. Le chiffre réel pourrait être de 2 à 3 fois plus grand, c'est pas très facile à savoir, donc peut-être 200 à 250 millions d'immigrants, de personnes qui se déplacent d'un continent à l'autre. Au niveau national, un taux annuel excède rarement 0,5% par an, alors que le taux d'accroissement naturel peut aller de 0 à 3%. Actuellement, pour les régions développées, par exemple, la moyenne était de 0,2% par an, globalement, ce qui n'est pas considérable. Et les pays en développement perdaient un petit peu de leur population, mais seulement 0,05% par an. Alors, les Nations Unies font des hypothèses de migration. Elles sont considérées comme un peu faibles, peut-être, et on pense qu'il faudra compter sur des migrations un peu plus élevées que les chiffres que j'ai donnés. Actuellement, le stock de personnes immigrées, c'est-à-dire résidentes hors de leur pays d'origine, donc ils sont nés hors de leur pays de résidence, ce chiffre est estimé à 200 millions. Ça représenterait à peu près moins de 3% de la population mondiale. Alors, un point qui est en débat aussi, c'est la question des migrations climatiques. Il y a plusieurs paramètres qui pourraient entraîner l'obligation de déplacement de population suite aux évolutions climatiques. Les chiffres, là aussi, circulent parfois un peu fantaisistes. Un chiffre raisonnable serait de l'ordre de 100 millions à l'horizon 2050, qui s'ajouteront donc aux millions déjà prévus spontanément. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de façon générale, ces migrants ne sont pas tous des migrants internationaux. Quand on migre, on commence d'abord par se déplacer dans son propre pays. Si on ne peut pas, on cherche ailleurs, et généralement dans le pays voisin. Et en dernier recours, et quand on en a les possibilités, les moyens, on essaie de tenter sa chance beaucoup plus loin. Mais il ne faut pas imaginer que quand on dit qu'il y aurait peut-être 100 millions de migrants climatiques, ça voudra dire 100 millions de personnes qui afflueront vers l'Europe ou d'autres pays développés. Alors pour conclure, quelques défis majeurs qui nous attendent. Eh bien, le premier sera de nourrir les 9 milliards d'hommes. Évidemment, la demande d'alimentation augmentera au prorata de la population totale, à peu de choses près. Néanmoins, il faudra quand même essayer de limiter la consommation par tête. On est actuellement à 3400 kilocalories par jour et par habitant dans la moyenne des pays industrialisés, parfois jusqu'à 4000. C'est trop. D'un point de vue nutritionnel, de santé, c'est trop. Et il faudrait redescendre à 3000. C'est l'objectif que se donnent généralement ceux qui font des projections de ressources alimentaires à l'horizon 2050. Il faudrait aussi diminuer la part des calories d'origine végétale, qui entrent notamment dans la viande, et lutter contre les pertes et les gaspillages. Je n'ai pas le temps de vous en parler bien davantage. Je renvoie au rapport qu'a signalé Madame le Président dans son introduction. Alors, en face de cette demande qui va augmenter, à peu près de 70% globalement à l'échelle de 2050, l'offre pourra résulter d'une augmentation des surfaces cultivées, pas beaucoup, et ça entre en compétition avec la nécessité de protéger par exemple les forêts, par une meilleure productivité surtout, qui est encore possible dans beaucoup de régions, même si, au contraire, dans les régions les plus avancées au point de vue agricole, il faudra sans doute éliminer les techniques trop intensives qui utilisent trop d'intrants, qui épuisent les sols, et revenir à une agriculture donc plus acceptable du point de vue écologique. Il faudra également parvenir à une certaine régulation des prix, ce qui n'est pas un mince problème, pour éviter les crises alimentaires, comme on en connaît, qui résultent d'une flambée des prix qui n'est pas toujours justifiée par une réelle baisse ou une baisse substantielle des ressources. Il faudra reconstituer les stocks qui actuellement sont extrêmement bas. Un autre problème sera la ressource en eau. L'eau est majoritairement utilisée pour l'agriculture, donc ça renvoie au problème précédent. Mais avant même les évolutions climatiques attendues, qui pourraient compliquer encore les choses, certains bassins montrent déjà des signes de réduction de ressources et on voit des tensions entre populations du même pays ou de pays voisins qui sont en concurrence pour la même ressource en eau et ces tensions pourraient évidemment s'aggraver. L'urbanisation posera de redoutables problèmes, notamment dans la gestion des villes. Il n'y a pas de planification dans la migration qui arrive vers les villes. Il n'y a pas d'emplois qui attendent ces migrants. Ils ne viennent pas attirés par des emplois. Ils viennent simplement parce qu'ils ne peuvent pas se nourrir là où ils habitent. Et donc, tout est à faire. Certaines villes, comme on l'a brièvement vu, certaines agglomérations peuvent atteindre 5-10 millions d'habitants. Les responsables administratifs donc, de ces régions, sont à la, de ces agglomérations, ont la même responsabilité que beaucoup de chefs d'État, qui n'ont pas des populations qui dépassent des millions d'habitants. Et pourtant, ils n'ont pas toujours des moyens comparables à ceux de chefs d'État. Et puis, les migrations climatiques, j'en ai dit un mot aussi. Voilà, je remercie beaucoup de votre attention.
Vous venez d'entendre Henri Léridon. Le texte de sa communication comportant les quelques graphiques auxquels il fait référence est disponible sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques, asmp.fr. Dans cette même série de communications de l'année 2012, Asymétrie et Force neuve du monde actuel, vous pouvez aussi écouter une communication de Pierre Gadonnex, président du Comité mondial de l'énergie, sur les perspectives et les enjeux de l'énergie mondiale.